Chateaubriand, Atala, le prologue. La France possédait autrefois, dans l'Amérique septentrionale, un vaste empire qui s'étendait depuis le Labrador jusqu'aux Florides et depuis les rivages de l'Atlantique jusqu'aux lacs les plus reculés du Haut-Canada. Quatre grands fleuves, ayant leur source dans les mêmes montagnes, divisaient ces régions immenses. Le fleuve Saint-Laurent, qui se perd à l'est dans le golfe de son nom, la rivière de l'ouest, qui porte ses eaux à des mers inconnues, le fleuve Bourbon, qui se précipite du midi au nord dans la baie d'Hudson, et le Méchacébé, aujourd'hui le Mississippi, qui tombe du nord au midi dans le golfe du Mexique. Ce dernier fleuve, dans un cours de plus de 1000 lieues, arrose une délicieuse contrée que les habitants des États-Unis appellent le Nouvel Éden et à laquelle les Français ont laissé le doux nom de Louisiane. 1000 autres fleuves, tributaires du Méchacébé, le Missouri, l'Illinois, la Kansas, l'Ohio, le Wabash, le Tenaz, l'engraissent de leurs limons et la fertilisent de leurs eaux. Quand tous ces fleuves se sont gonflés des déluges de l'hiver, quand les tempêtes ont abattu des pans entiers de forêts, les arbres déracinés s'assemblent sur les sources. Bientôt les vases les cimentent, les lianes les enchaînent, et des plantes y prenant racine de toutes parts achèvent de consolider ces débris. Charriés par les vagues écumantes, ils descendent au Méchacébé. Le fleuve s'en empare, les pousse au golfe mexicain, les échoue sur des bancs de sable et accroît ainsi le nombre de ses embouchures. Par intervalles, il élève sa voie en passant sous les monts et répand ses eaux débordées autour des colonnades des forêts et des pyramides des tombeaux indiens. C'est le Nil des déserts. Mais la grâce est toujours unie à la magnificence dans les scènes de la nature. Tandis que le courant du milieu entraîne vers la mer les cadavres des pins et des chênes, on voit sur les deux courants latéraux remonter le long des rivages des îles flottantes de Pistia et de Nénuphar, dont les roses jaunes s'élèvent comme de petits pavillons. Des serpents verts, des hérons bleus, des flamants roses, de jeunes crocodiles s'embarquent passagers sur ces vaisseaux de fleurs, et la colonie, déployant au vent ses voiles d'or, va aborder endormie dans quelque anse retirée du fleuve. Les deux rives du Méchacébé présentent le tableau le plus extraordinaire. Sur le bord occidental, les savanes se déroulent à perte de vue. Leurs flots de verdure, en s'éloignant, semblent monter dans l'azur du ciel où ils s'évanouissent. On voit dans ces prairies sans bornes errer à l'aventure des troupeaux de 3 ou 4 000 buffles sauvages. Quelquefois un bison chargé d'années, fendant les flots à la nage, se vient coucher parmi de hautes herbes dans une île du Méchacébé. À son front orné de 2 croissants, à sa barbe antique et limoneuse, vous le prendriez pour le dieu du fleuve qui jette un œil satisfait sur la grandeur de ses ondes et le sauvage abondance de ses rives. Telle est la scène sur le bord occidental. Mais elle change sur le bord opposé et forme avec la première un admirable contraste. Suspendue sur les cours des eaux, groupée sur les rochers et sur les montagnes, dispersée dans les vallées, des arbres de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les parfums se mêlent, croissent ensemble, montent dans les airs à des hauteurs qui fatiguent les regards. Les vignes sauvages, les bignonias, les coloquintes s'entrelacent au pied de ces arbres, escaladent leurs rameaux, grimpent à l'extrémité des branches, s'élancent de l'érable au tulipier, du tulipier à l'alcé, en formant 1000 grottes, 1000 voûtes, 1000 portiques. Souvent égarées d'arbre en arbre, ces lianes traversent des bras de rivière sur lesquels elles jettent des ponts de fleurs. Du sein de ces massifs le magnolia élève son cône immobile. Surmonté de ses larges roses blanches, il domine toute la forêt et n'a d'autre rival que le palmier qui balance légèrement auprès de lui ses éventails de verdure. Une multitude d'animaux placés dans ces retraites par la main du Créateur y répandent l'enchantement et la vie. De l'extrémité des avenues, on aperçoit des ours enivrés de raisins qui chancellent sur les branches des ormeaux. Des caribous se baignent dans un lac. Des écureuils noirs se jouent dans l'épaisseur des feuilles. Des oiseaux moqueurs, des colombes de Virginie de la grosseur d'un passereau, descendent sur les gazons rougis par les fraises. Des perroquets verts à tête jaune, des pivers empourprés, des cardinaux de feu, grimpent en circulant au haut des cyprès. Des colibris étincellent sur le jasmin des Florides, et des serpents oiseleurs sifflent, suspendus au dôme des bois, en s'y balançant comme des lianes. Si tout est silence et repos dans les savanes de l'autre côté du fleuve, tout ici au contraire est mouvement et murmure. Des coups de bec contre les troncs des chênes, des froissements d'animaux qui marchent, broutent ou broient entre leurs dents les noyaux des fruits, des bruissements d'ondes, de faibles gémissements, de sourds meuglements, de doux roucoulements, remplissaient les airs d'une tendre et sauvage harmonie. Mais quand une brise vient à animer ces solitudes, à balancer ces corps flottants, à confondre ces masses de blanc, d'azur, de vert, de rose, à mêler toutes les couleurs, à réunir tous les murmures, alors il sort de tels bruits du fond des forêts, il se passe de telles choses aux yeux que j'essaierais en vain de les décrire à ceux qui n'ont point parcouru ces champs primitifs de la nature. Après la découverte du Méchacébé par le père Marquette et l'infortuné Lassalle, les premiers Français qui s'établirent au Biloxi et à la Nouvelle-Orléans firent alliance avec les Natchez, nation indienne dont la puissance était redoutable dans ces contrées. Des querelles et des jalousies ensanglantèrent dans la suite la terre de l'hospitalité. Il y avait parmi ces sauvages un vieillard nommé Chactas, qui, par son âge, sa sagesse et sa science dans les choses de la vie, était le patriarche et l'amour des déserts. Comme tous les hommes, il avait acheté la vertu par l'infortune. Non seulement les forêts du Nouveau Monde furent remplies de ses malheurs, mais il les porta jusque sur les rivages de la France. Retenu aux galères à Marseille par une cruelle injustice, rendu à la liberté, présenté à Louis XIV, il avait conversé avec les grands hommes de ce siècle et assisté aux fêtes de Versailles, aux tragédies de Racine, aux oraisons funèbres de Bossuet. En un mot, le sauvage avait contemplé la société à son plus haut point de splendeur. Depuis plusieurs années, rentré dans le sein de sa patrie, Chactas jouissait du repos. Toutefois, le ciel lui vendait encore cher cette faveur. Le vieillard était devenu aveugle. Une jeune fille l'accompagnait sur les coteaux du Méchacébé, comme Antigone guidait les pas d'Édipe sur le Citeron, ou comme Malvina conduisait Ossian sur les rochers de Morven. Malgré les nombreuses injustices que Chactas avait éprouvées de la part des Français, il les aimait. Il se souvenait toujours de Fénelon, dont il avait été l'hôte, et désirait pouvoir rendre quelques services aux compatriotes de cet homme vertueux. Il s'en présenta une occasion favorable. En 1725, un Français nommé René, poussé par des passions et des malheurs, arriva à la Louisiane. Il remonta le Méchacébé jusqu'au Natchez et demanda à être reçu guerrier de cette nation. Chactas, l'ayant interrogé et le trouvant inébranlable dans sa résolution, l'adopta pour fils et lui donna pour épouse une indienne appelée Theluta. Peu de temps après ce mariage, les sauvages se préparèrent à la chasse du castor. Chaque tasse, quoique aveugle, est désigné par le conseil des sachems pour commander l'expédition à cause du respect que les tribus indiennes lui portaient. Les prières et les jeûnes commencent. Les jongleurs interprètent les songes. On consulte les manitous. On fait des sacrifices de pétun. On brûle des filets de langue d'orignal. On examine s'il pétille dans la flamme afin de découvrir la volonté des génies. On part enfin après avoir mangé le chien sacré. René est de la troupe. À l'aide des contre-courants, les pirogues remontent le Méchacébé et entrent dans le lit de l'Ohio. C'est en automne. Les magnifiques déserts du Kentucky se déploient aux yeux étonnés du jeune Français. Une nuit à la clarté de la lune, tandis que tous les Natchez dorment au fond de leurs pirogues, et que la flotte indienne, élevant ses voiles de peau de bête, fuit devant une légère brise, René, demeuré seul avec chaque tasse, lui demande le récit de ses aventures. Le vieillard consent à le satisfaire, et, assis avec lui sur la poupe de la pirogue, il commence en ces mots. Récit de chaque tasse. Les chasseurs. C'est une singulière destinée, mon cher fils, que celle qui nous réunit. Je vois en toi l'homme civilisé qui s'est fait sauvage. Tu vois en moi l'homme sauvage que le grand esprit, j'ignore pour quel dessein, a voulu civiliser. Entrer l'un et l'autre dans la carrière de la vie par les deux bouts opposés, tu es venu te reposer à ma place et j'ai été m'asseoir à la tienne. Ainsi nous avons dû avoir des objets, une vue totalement différente. Qui de toi ou de moi le plus gagné ou le plus perdu à ce changement de position? C'est ce que savent les génies, dont le moins savant a plus de sagesse que tous les hommes ensemble. À la prochaine lune des fleurs, il y aura 7 fois 10 neiges et 3 neiges de plus que ma mère me mit au monde sur les bords du Méchacébé. Les Espagnols s'étaient depuis peu établis dans la baie de Pensacola, mais aucun blanc n'habitait encore la Louisiane. Je comptais à peine 17 chutes de feuilles lorsque je marchais avec mon père, le guerrier Outalissi, contre les Muscogiges, nation puissante des Florides. Nous nous joignîmes aux Espagnols, nos alliés, et le combat se donna sur une des branches de la Mobile. Arrescuy et les Mantitou ne nous furent pas favorables. Les ennemis triomphèrent. Mon père perdit la vie. Je fus blessé 2 fois en le défendant. Oh, que ne descendis-je alors dans le pays des âmes? J'aurais évité les malheurs qui m'attendaient sur la terre. Les esprits en ordonnèrent autrement. Je fus entraîné par les fuyards à Saint-Augustin. Dans cette ville nouvellement bâtie par les Espagnols, je courais le risque d'être enlevé pour les mines de Mexico lorsqu'un vieux castillan, nommé Lopez, touché de ma jeunesse et de ma simplicité, m'offrit un asile et me présenta à une sœur avec laquelle il vivait sans épouse. Tous les deux prirent pour moi les sentiments les plus tendres. On m'éleva avec beaucoup de soin, on me donna toutes sortes de maîtres. Mais après avoir passé 30 lunes à Saint-Augustin, je fus saisi du dégoût de la vie des cités. Je dépérissais à vue d'œil. Tantôt, je demeurais immobile pendant des heures à contempler la cime des lointaines forêts. Tantôt, on me trouvait assis au bord d'un fleuve que je regardais tristement couler. Je me peignais les bois à travers lesquels cette onde avait passé, et mon âme était tout entière à la solitude. Ne pouvant plus résister à l'envie de retourner au désert, un matin je me présentai à Lopez, vêtu de mes habits de sauvage, tenant d'une main mon arc et mes flèches, et de l'autre mes vêtements européens. Je l'ai remise à mon généreux protecteur, au pied duquel je tombais en versant des torrents de larmes. Je me donnais des noms odieux, je m'accusais d'ingratitude. Mais enfin, lui dis-je, oh, mon père, tu le vois toi-même, je meurs si je ne reprends la vie de l'Indien. Lopez, frappé d'étonnement, voulut me détourner de mon dessein. Il me représenta les dangers que j'allais courir en m'exposant à tomber de nouveau entre les mains des Muscogiges. Mais, voyant que j'étais résolu à tout entreprendre, fondant en pleurs et me serrant dans ses bras, « Va, s'écria-t-il, enfant de la nature, reprends cette indépendance de l'homme que Lopez ne te veut point ravir. Si j'étais plus jeune moi-même, je t'accompagnerai au désert, où j'ai aussi de doux souvenirs, et je te remettrai dans les bras de ta mère. Quand tu seras dans tes forêts, songe quelquefois à ce vieil Espagnol qui te donna l'hospitalité, et rappelle-toi, pour te porter à l'amour de tes semblables, que la première expérience que tu as faite du cœur humain a été tout en sa faveur. » Lopez finit par une prière au Dieu des chrétiens, dont j'avais refusé d'embrasser le culte, et nous nous quittâmes avec des sanglots. Je ne tardais pas à être puni de mon ingratitude. Mon inexpérience m'égara dans les bois, et je fus pris par un parti de Muscogiges et de Siminoles, comme Lopez me l'avait prédit. Je fus reconnu pour Natchez à mon vêtement et aux plumes qui ornaient ma tête. On m'enchaîna, mais légèrement, à cause de ma jeunesse. Simagan, le chef de la troupe, voulut savoir mon nom. Je répondis, « Je m'appelle Chactas, fils d'Outalussi, fils de Miscou, qui ont enlevé plus de 100 chevelures aux héros Muscogiges. » Simagan me dit, « Chactas, fils d'Outalussi, fils de Miscou, réjouis-toi, tu seras brûlé au grand village. » Je repartis, « Voilà qui va bien, » et j'entonnais ma chanson de mort. Tout prisonnier que j'étais, je ne pouvais, durant les premiers jours, m'empêcher d'admirer mes ennemis. Le Muscogige, et surtout son allié, le Siminole, respire la gaieté, l'amour, le contentement. Sa démarche est légère, son abord ouvert et serein. Il parle beaucoup et avec volubilité. Son langage est harmonieux et facile. L'âge même ne peut ravir au sachem cette simplicité joyeuse. Comme les vieux oiseaux de nos bois, ils mêlent encore leurs vieilles chansons aux airs nouveaux de leur jeune postérité. Les femmes qui accompagnaient la troupe témoignaient pour ma jeunesse une pitié tendre et une curiosité aimable. Elles me questionnaient sur ma mère, sur les premiers jours de ma vie. Elles voulaient savoir si l'on suspendait mon berceau de mousse aux branches fleuries des érables, si les brises m'y balançaient auprès du nid des petits oiseaux. C'était ensuite 1000 autres questions sur l'état de mon cœur. Elle me demandait si j'avais vu une biche blanche dans mes songes, et si les arbres de la vallée secrète m'avaient conseillé d'aimer. Je répondais avec naïveté aux mères, aux filles et aux épouses des hommes. Je leur disais, « Vous êtes les grâces du jour et la nuit vous aime comme la rosée. L'homme sort de votre sein pour se suspendre à votre mamelle et à votre bouche. Vous savez des paroles magiques qui endorment toutes les douleurs. Voilà ce que m'a dit celle qui m'a mise au monde et qui ne me reverra plus. Elle m'a dit encore que les vierges étaient des fleurs mystérieuses qu'on trouve dans les lieux solitaires. » Ces louanges faisaient beaucoup de plaisir aux femmes. Elles me comblaient de toutes sortes de dons. Elles m'apportaient de la crème de noix, du sucre d'érable, de la sagamité, des jambons d'ours, des peaux de castor, des coquillages pour me parer et des mousses pour ma couche. Elles chantaient, elles riaient avec moi, et puis elles se prenaient à verser des larmes en songeant que je serais brûlé. Une nuit que les Muscogees avaient placé leur camp sur le bord d'une forêt, j'étais assis auprès du feu de la guerre, avec le chasseur commis à ma garde. Tout à coup, j'entendis le murmure d'un vêtement sur l'herbe, et une femme à demi voilée vint s'asseoir à mes côtés. Des pleurs roulaient sous sa paupière. À la lueur du feu, un petit crucifix d'or brillait sur son sein. Elle était régulièrement belle. L'on remarquait sur son visage je ne sais quoi de vertueux et de passionné, dont l'attrait était irrésistible. Elle joignait à cela des grâces plus tendres, une extrême sensibilité unie à une mélancolie profonde respirait dans ses regards. Son sourire était céleste. Je crus que c'était la Vierge des dernières amours, cette Vierge qu'on envoie aux prisonniers de guerre pour enchanter sa tombe. Dans cette persuasion, je lui dis en balbutiant et avec un trouble qui pourtant ne venait pas de la crainte du bûcher, « Vierge, vous êtes digne des premières amours, et vous n'êtes pas faite pour les dernières. Les mouvements d'un cœur qui va bientôt cesser de battre répondraient mal aux mouvements du vôtre. Comment mêler la mort et la vie? Vous me feriez trop regretter le jour. Qu'un autre soit plus heureux que moi, et que de longs embrassements unissent la liane et la chaîne. » La jeune fille me dit alors, « Je ne suis point la Vierge des dernières amours. Es-tu chrétien ?» Je répondis que je n'avais point trahi les génies de ma cabane. À ces mots, l'Indienne fit un mouvement involontaire. Elle me dit, « Je te plains de n'être qu'un méchant idolâtre. Ma mère m'a fait chrétienne. Je me nomme Atala, fille de Simagan au bracelet d'or, et chef des guerriers de cette troupe. Nous nous en rendons à Apalachula, où tu seras brûlé. » En prononçant ces mots, Atala se lève et s'éloigne. Ici, Shaktas fut contraint d'interrompre son récit. Les souvenirs se pressèrent en foule dans son âme. Ses yeux éteints inondèrent de larmes ses joues flétries. Telles deux sources cachées dans la profonde nuit de la terre se décèlent par les eaux qu'elle laisse filtrer entre les rochers. « Ô mon fils, reprit-il enfin, tu vois que Shaktas est bien peu sage malgré sa renommée de sagesse. Hélas, mon cher enfant, les hommes ne peuvent déjà plus voir qu'ils peuvent encore pleurer. » Plusieurs jours s'écoulèrent, la fille du sachem revenait chaque soir me parler. Le sommeil avait fui de mes yeux, et Atala était dans mon cœur comme le souvenir de la couche de mes pères. Le 17e jour de marche, vers le temps où l'éphémère sort des eaux, nous entrâmes sur la grande savane Alachua. Elle est environnée de coteaux, qui, fuyant les uns derrière les autres, portent en s'élevant jusqu'aux nues des forêts étagées de copalmes, de citronniers, de magnolia et de chênes verts. Le chef poussa le cri d'arrivée et la troupe campa au pied des collines. On me relégua à quelque distance au bord d'un de ces puits naturels si fameux dans les Florides. J'étais attaché au pied d'un arbre. Un guerrier veillait impatiemment auprès de moi. J'avais à peine passé quelques instants dans ce lieu qu'Atala parut sous les liquides en barre de la fontaine. « Chasseur, dit-elle au héros Muscogige, si tu veux poursuivre le chevreuil, je garderai le prisonnier. » Le guerrier bondit de joie à cette parole de la fille du chef. Il s'élance du sommet de la colline et allonge ses pas dans la plaine. Étrange contradiction du cœur de l'homme. Moi qui avais tant désiré de dire les choses du mystère à celle que j'aimais déjà comme le soleil, maintenant interdit et confus, je crois que j'eusse préféré d'être jeté au crocodile de la fontaine à me trouver seul ainsi avec Atala. La fille du désert était aussi troublée que son prisonnier. Gardions d'un profond silence. Les génies de l'amour avaient dérobé nos paroles. Enfin, Atala, faisant un effort, dit ceci. « Guerrier, vous êtes retenu bien faiblement. Vous pouvez aisément vous échapper. » À ces mots, la hardiesse revint sur ma langue, je répondis. « Faiblement retenu, ô femme !» Je ne sus comment achever. Atala hésita quelques moments, puis elle dit « Sauvez-vous !» Et elle me détacha du tronc de l'arbre. Je saisis la corde, je la remis dans la main de la fille étrangère en forçant ses beaux doigts à se fermer sur ma chaîne. « Reprenez-la, reprenez-la » m'écriai-je. « Vous êtes un insensé, » dit Atala d'une voix émue. « Malheureux, ne sais-tu pas que tu seras brûlé ? Que prétends-tu ? Songes-tu bien que je suis la fille d'un redoutable sachem ?» Il fut un temps, répliquai-je avec des larmes, que j'étais aussi porté dans une peau de castor aux épaules d'une mère. Mon père avait aussi une belle hutte, et ses chevreuils buvaient les eaux de 1000 torrents. Mais j'erre maintenant sans patrie. Quand je ne serai plus aucun ami, ne mettra un peu d'herbe sur mon corps pour le garantir des mouches. Le corps d'un étranger malheureux n'intéresse personne. Ces mots attendrirent Atala. Ses larmes tombèrent dans la fontaine. « Ah ! Repris-je avec vivacité, si votre cœur parlait comme le mien ! Le désert n'est-il pas libre ? Les forêts n'ont-elles point de repli où nous cacher ? Faut-il donc, pour être heureux, tant de choses aux enfants des cabanes, ô filles, plus belles que le premier songe de l'époux ? Ô ma bien-aimée, ose suivre mes pas ! » Telles furent mes paroles. Atala me répondit d'une voix tendre. « Mon jeune ami, vous avez appris le langage des Blancs. Il est aisé de tromper une Indienne. « Quoi ? M'écriai-je. Vous m'appelez votre jeune ami ? Ah ! Si un pauvre esclave !»« Eh bien, dit-elle en se penchant sur moi, un pauvre esclave !» je repris avec ardeur. Qu'un baiser l'assure de ta foi ? Atala écouta ma prière. Comme un faon semble prendre au fleur de liane rose, qu'il saisit de sa langue délicate dans l'escarpement de la montagne, ainsi je restais suspendu aux lèvres de ma bien-aimée. Hélas, mon cher fils, la douleur touche de près au plaisir. Qui eût pu croire que le moment où Atala me donnait le premier gage de son amour serait celui-là même où elle détruirait mes espérances? Cheveux blanchis du vieux Shaktas, quel fut votre étonnement lorsque la fille de Sachem prononça ces paroles? Beau prisonnier, j'ai follement cédé à ton désir. Mais où nous conduira cette passion? Ma religion me sépare de toi pour toujours. Ô ma mère, qu'as-tu fait? Atala se tut tout à coup et retint je ne sais quel fatal secret près d'échapper à ses lèvres. Ces paroles me plongèrent dans le désespoir. Eh bien, m'écriai-je, je serai aussi cruel que vous. Je ne fuirai point. Vous me verrez dans le cadre de feu, vous entendrez les gémissements de ma chair, et vous serez pleine de joie. » Atala saisit mes mains entre les deux siennes. Pauvre jeune idolâtre, s'écria-t-elle, tu me fais réellement pitié. Tu veux donc que je pleure tout mon cœur? Quel dommage que je ne puisse fuir avec toi. Malheureux a été le ventre de ta mère, ô Atalar. Que ne te jettes-tu au crocodile de la fontaine? Dans ce moment même, les crocodiles, aux approches du coucher du soleil, commençaient à faire entendre leurs rugissements. Atala me dit, « Quittons ces lieux. » J'entraînai la fille de Simagan au pied des coteaux qui formaient des golfes de verdure en avançant leur promontoire dans la savane. Tout était calme et superbe au désert. La cigogne criait sur son nid, les bois retentissaient du chant monotone des cailles, du sifflement des perruches, du mugissement des bisons et du hennissement des cavales siminoles. Notre promenade fut presque muette. Je marchais à côté d'Atala. Elle tenait le bout de la corde que je l'avais forcée de reprendre. Quelquefois nous versions des pleurs, quelquefois nous essayions de sourire. Un regard tantôt levé vers le ciel, tantôt attaché à la terre, une oreille attentive au chant de l'oiseau, un geste vers le soleil couchant, une main tendrement serrée, un sein tour à tour palpitant, tour à tour tranquille, les noms des Shaktas et d'Atala doucement répétés par intervalles. Oh, première promenade de l'amour, il faut que votre souvenir soit bien puissant, puisqu'après tant d'années d'infortune, vous remuez encore le cœur du vieux Shaktas. Qu'ils sont incompréhensibles, les mortels agités par les passions. Je venais d'abandonner le généreux Lopez, je venais de m'exposer à tous les dangers pour être libre. Dans un instant, le regard d'une femme avait changé mes goûts, mes résolutions, mes pensées. Oubliant mon pays, ma mère, ma cabane et la mort affreuse qui m'attendait, j'étais devenu indifférent à tout ce qui n'était pas Atala. Sans force pour m'élever à la raison de l'homme, j'étais retombé tout à coup dans une espèce d'enfance, et loin de pouvoir rien faire pour me soustraire aux maux qui m'attendaient, j'aurais eu presque besoin qu'on s'occupât de mon sommeil et de ma nourriture. Ce fut donc vainement qu'après nos courses dans la savane, Atala, se jetant à mes genoux, m'invita de nouveau à la quitter. Je lui protestais que je retournerais seul au camp si elle refusait de me rattacher au pied de mon arbre. Elle fut obligée de me satisfaire, espérant me convaincre une autre fois. Le lendemain de cette journée qui décida du destin de ma vie, on s'arrêta dans une vallée non loin de Cuscovilla, capitale des Siminoles. Ces Indiens, unis aux Musogis, forme avec eux la confédération des Creeks. La fille du pays des palmiers vint me trouver au milieu de la nuit. Elle me conduisit dans une grande forêt de pins et renouvela ses prières pour m'engager à la suite. Sans lui répondre, je pris sa main dans ma main et je forçai cette biche altérée d'errer avec moi dans la forêt. La nuit était délicieuse. Le génie des airs secouait sa chevelure bleue, embaumée de la senteur des pins, et l'on respirait la faible odeur d'ambre qu'exhalaient les crocodiles couchés sous les tamarins des fleuves. La lune brillait au milieu d'un azur sans tache, et sa lumière gris de perles descendait sur la cime indéterminée des forêts. Aucun bruit ne se faisait entendre, hors je ne sais quelle harmonie lointaine qui régnait dans la profondeur des bois. On eût dit que l'âme de la solitude soupirait dans toute l'étendue du désert. Nous aperçûmes à travers les arbres un jeune homme qui, tenant à la main un flambeau, ressemblait au génie du printemps, parcourant les forêts pour animer la nature, C'était un amant qui allait s'instruire de son sort à la cabane de sa maîtresse. Si la Vierge éteint le flambeau, elle accepte les vœux offerts. Si elle se voile sans l'éteindre, elle rejette un époux. Le guerrier, en se glissant dans les ombres, chantait à demi-voix ces paroles. Je devancerai les pas du jour sur le sommet des montagnes pour chercher ma colombe solitaire parmi les chênes de la forêt. J'ai attaché à son cou un collier de porcelaine. On y vit 3 grains rouges pour mon amour, 3 violets pour mes craintes, 3 bleus pour mes espérances. Mila a les yeux d'une hermine et la chevelure légère d'un champ de riz. Sa bouche est un coquillage rose garni de perles. Ses 2 seins sont comme 2 petits chevreaux sans tache, nés au même jour d'une seule mère. Puisse Mila éteindre ce flambeau, puisse sa bouche verser sur lui une ombre voluptueuse. Je fertiliserai son sein. L'espoir de la patrie pendra à sa mamelle féconde et je fumerai mon calumet de paix sur le berceau de mon fils. Laissez-moi devancer les pas du jour sur le sommet des montagnes pour chercher ma colombe solitaire parmi les chênes de la forêt. Ainsi chantait ce jeune homme, dont les accents portèrent le trouble jusqu'au fond de mon âme et firent changer le visage à Atala. Nos mains unies frémirent l'une dans l'autre. Mais nous fûmes distraits de cette scène par une scène non moins dangereuse pour nous. Nous passâmes auprès du tombeau d'un enfant qui servait de limite à 2 nations. On l'avait placé au bord du chemin, selon l'usage, afin que les jeunes femmes, en allant à la fontaine, puissent attirer dans leur sein l'âme de l'innocente créature et la rendre à la patrie. On y voyait dans ce moment des épouses nouvelles qui, désirant les douceurs de la maternité, cherchaient, en entr'ouvrant leurs lèvres, à recueillir l'âme du petit enfant qu'elles croyaient voir errer sur les fleurs. La véritable mère vint ensuite déposer une gerbe de maïs et des fleurs de lys blanc sur le tombeau. Elle arrosa la terre de son lait, s'assit sur le gazon humide et parla à son enfant d'une voix attendrie. Pourquoi te pleurais-je dans ton berceau de terre ou mon nouveau-né? Quand le petit oiseau devient grand, il faut qu'il cherche sa nourriture, et il trouve dans le désert bien des graines amères. Du moins, tu as ignoré les pleurs. Du moins, ton cœur n'a point été exposé au souffle dévorant des hommes. Le bouton qui sèche dans son enveloppe passe avec tous ses parfums, comme toi, ô mon fils, avec toute ton innocence. Heureux ceux qui meurent au berceau, qui n'ont connu que les baisers et les sourires d'une mère. Déjà subjugués par notre propre cœur, nous fûmes accablés par ces images d'amour et de maternité qui semblait nous poursuivre dans ces solitudes enchantées. J'emportai Atala dans mes bras au fond de la forêt, et je lui dis des choses qu'aujourd'hui je chercherais en vain sur mes lèvres. Le vent du midi, mon cher fils, perd sa chaleur en passant sur des montagnes de glace. Les souvenirs de l'amour dans le cœur d'un vieillard sont les feux du jour, réfléchi par l'orbe paisible de la lune lorsque le soleil s'est couché et que le silence plane sur les huttes des sauvages. Qui pouvait sauver Atala? Qui pouvait l'empêcher de succomber à la nature? Rien qu'un miracle, sans doute. Et ce miracle fut fait. La fille de Simagan eut recours au dieu des chrétiens. Elle se précipita sur la terre et prononça une fervente oraison adressée à sa mère et à la reine des vierges. C'est de ce moment, ô René, que j'ai conçu une merveilleuse idée de cette religion qui dans les forêts et au milieu de toutes les privations de la vie peut remplir de mille dons les infortunés, de cette religion qui, opposant sa puissance au torrent des passions, suffit seule pour les vaincre lorsque tout les favorise, et le secret des bois, et l'absence des hommes, et la fidélité des ombres. Ah, quelle me parut divine la simple sauvage, l'ignorante Atala, qui, à genoux devant un vieux plein tombé, comme au pied d'un autel, offrait à son Dieu des vœux pour un amant idolâtre. Ses yeux levés vers l'astre de la nuit, ses joues brillantes des pleurs de la religion et de l'amour, étaient d'une beauté immortelle. Plusieurs fois il me sembla qu'elle allait prendre son vol vers les cieux. Plusieurs fois je crus voir descendre sur les rayons de la lune et entendre dans les branches des arbres ces génies que le Dieu des chrétiens envoie aux ermites des rochers lorsqu'il se dispose à les rappeler à lui. J'en fus affligé, car je craignis qu'Atala n'eût que peu de temps à passer sur la terre. Cependant, elle versa tant de larmes, elle se montra si malheureuse, que j'allais peut-être consentir à m'éloigner, lorsque le cri de mort retentit dans la forêt. Quatre hommes armés se précipitent sur moi. Nous avions été découverts. Le chef de guerre avait donné l'ordre de nous poursuivre. Atala, qui ressemblait à une reine pour l'orgueil de la démarche, dédaigna de parler à ses guerriers. Elle leur lança un regard superbe et se rendit auprès de Simagan. Elle ne put rien obtenir. On redoubla mes gardes, on multiplia mes chaînes, on écarta mon amante. Cinq nuits s'écoulent, et nous apercevons à Paluchkla, situé au bord de la rivière Chataouché. Aussitôt, on me couronne de fleurs, on me peint le visage d'azur et de vermillon, on m'attache des perles au nez et aux oreilles, et l'on me met à la main un chichicoué. Ainsi, paré pour le sacrifice, j'entre dans Apalushkla au cri répété de la foule. C'en était fait de ma vie, quand, tout à coup, le bruit d'une conque se fait entendre et le Miko, chef de la nation, ordonne de s'assembler. Tu connais, mon fils, les tourments que les sauvages font subir aux prisonniers de guerre. Les missionnaires chrétiens, au péril de leurs jours et avec une charité infatigable, étaient parvenus, chez plusieurs nations, à faire substituer un esclavage assez doux aux horreurs du bûcher. Les Muscogiges n'avaient point encore adopté cette coutume, mais un parti nombreux s'était déclaré en sa faveur. C'était pour prononcer sur cette importante affaire que le Miko convoqua les sachems. On me conduit au lieu des délibérations. Non loin d'Apalucha s'élevait sur un tertre isolé le pavillon du conseil. Trois cercles de colonnes formaient l'élégante architecture de cette rotonde. Les colonnes étaient de cyprès poli et sculpté. Elles augmentaient en hauteur et en épaisseur et diminuaient en nombre à mesure qu'elles se rapprochaient du centre marqué par un pilier unique. Du sommet de ce pilier partaient des bandes d'écorce qui, passant sur le sommet des autres colonnes, couvraient le pavillon en forme d'éventail à jour. Le conseil s'assembla. 50 vieillards en manteau de castor se rangent sur des espèces de gradins faisant face à la porte du pavillon. Le grand chef est assis au milieu d'eux, tenant à la main le calumet de paix à demi coloré pour la guerre. À la droite des vieillards se placent 50 femmes couvertes d'une robe de plumes de cygne. Les chefs de guerre, le tomahawk à la main, le pennache en tête, Les bras et la poitrine teints de sang prennent la gauche. Au pied de la colonne centrale brûle le feu du conseil. Le premier jongleur, environné des 8 gardiens du temple, vêtu de longs habits et portant un hibou empaillé sur la tête, verse du baume de copalme sur la flamme et offre un sacrifice au soleil. Ce triple rang de vieillards, de matrones, de guerriers, ces prêtres, ces nuages d'encens, ce sacrifice, tout sert à donner à ce conseil un appareil imposant. J'étais debout, enchaîné, au milieu de l'assemblée. Le sacrifice achevé, le Miko prend la parole et expose avec simplicité l'affaire qui rassemble le conseil. Il jette un collier bleu dans la salle en témoignage de ce qu'il vient de dire. Alors, un sachem de la tribu de l'aigle se lève et parle ainsi. Mon père le Miko, sachem, matrone, guerrier des 4 tribus de l'aigle, du castor, du serpent et de la tortue, ne changeons rien aux mœurs de nos aïeux. Brûlons le prisonnier et n'amollissons point nos courages. C'est une coutume des blancs qu'on vous propose, elle ne peut être que pernicieuse. Donnez un collier rouge qui contienne mes paroles. J'ai dit. Et il jette un collier rouge dans l'assemblée. Une matrone se lève et dit « Mon père l'aigle, vous avez l'esprit d'un renard et la prudente lenteur d'une tortue. Je veux polir avec vous la chaîne d'amitié et nous planterons ensemble l'arbre de paix. Mais changeons les coutumes de nos aïeux en ce qu'elles ont de funeste. Ayons des esclaves qui cultivent nos champs et n'entendons plus les cris du prisonnier qui trouble le sein des mers. J'ai dit. » Comme on voit les flots de la mer se briser pendant un orage, comme en automne les feuilles séchées sont enlevées par un tourbillon, comme les roseaux du méchassébé plient et se relèvent dans une inondation subite, comme un grand troupeau de cerfs brame au fond d'une forêt, ainsi s'agitait et murmurait le conseil. Des sachems, des guerriers, des matrones parlent tour à tour ou tous ensemble. Les intérêts se choquent, les opinions se divisent, le conseil va se dissoudre. Mais enfin l'usage antique l'emporte et je suis condamné au bûcher. Une circonstance vint retarder mon supplice. La fête des morts ou le festin des âmes approchait. Il est d'usage de ne faire mourir aucun captif pendant les jours consacrés à cette cérémonie. On me confia une garde sévère, et sans doute les sachets m'éloignèrent la fille de Simagan, car je ne la revis plus. Cependant, les nations de plus de 300 lieues à la ronde arrivaient en foule pour célébrer le festin des âmes. On avait bâti une longue hutte sur un site écarté. Au jour marqué, chaque cabane exhuma les restes de ses pères de leur tombeau particulier et l'on suspendit les squelettes, par ordre et par famille, au mur de la salle commune des aïeux. Les vents, une tempête s'était élevée, les forêts, les cataractes mugissaient au dehors, tandis que les vieillards des diverses nations concluaient entre eux des traités de paix et d'alliance sur les os de leurs pères. On célèbre les jeux funèbres, la course, la balle, les osselets. Deux vierges cherchent à s'arracher une baguette de saule. Les boutons de leurs seins viennent se toucher, leurs mains voltigent sur la baguette qu'elles élèvent au-dessus de leur tête. Leurs beaux pieds nus s'entrelacent, leurs bouches se rencontrent, leurs douces haleines se confondent, elles se penchent et mêlent leurs chevelures, elles regardent leur mère, rougissent, on applaudit. Le jongleur invoque Michabou, génie des eaux. Il raconte les guerres du grand lièvre contre Matchimanitou, dieu du mal. Il dit le premier homme et hâta ainsi que la première femme précipitée du ciel pour avoir perdu l'innocence. La terre rougit du sang fraternel. Jusqu'Eka, l'impie, immolant le juste Adou Aouistzaroun, le déluge descendant à la voix du grand esprit, Massou, sauvé seul dans son canot d'écorce et le corbeau envoyé à la découverte de la terre. Il dit encore la belle Endae, retirée de la contrée des âmes par les douces chansons de son époux. Après ces jeux et ces cantiques, on se prépare à donner aux aïeux une éternelle sépulture. Sur les bords de la rivière Chataouché se voyait un figuier sauvage que le culte des peuples avait consacré. Les vierges avaient accoutumé de laver leurs robes d'écorce dans ce lieu et de les exposer au souffle du désert sur les rameaux de l'arbre antique. C'était là qu'on avait creusé un immense tombeau. On part de la salle funèbre en chantant l'hymne à la mort. Chaque famille porte quelques débris sacrés. On arrive à la tombe, on y descend les reliques, on les y étend par couches. On les sépare avec des peaux d'ours et de castors. Le mont du tombeau s'élève et l'on y plante l'arbre des pleurs et du sommeil. Plaignons les hommes, mon cher fils. Ces mêmes Indiens dont les coutumes sont si touchantes, ces mêmes femmes qui m'avaient témoigné un intérêt si tendre, demandaient maintenant mon supplice à grands cris. Et des nations entières retardaient leur départ pour avoir le plaisir de voir un jeune homme souffrir des tourments épouvantables. Dans une vallée au nord, à quelque distance du grand village, s'élevait un bois de cyprès et de sapins appelé le bois du sang. On y arrivait par les ruines d'un de ces monuments dont on ignore l'origine et qui sont l'ouvrage d'un peuple maintenant inconnu. Au centre de ce bois s'étendait une arène où l'on sacrifiait les prisonniers de guerre. On m'y conduit en triomphe. Tout se prépare pour ma mort. On plante le drapeau d'Arescoui, les pins, les ormes, les cyprès tombent sous la cognée, le bûcher s'élève, les spectateurs bâtissent des amphithéâtres avec des branches et des troncs d'arbres. Chacun invente un supplice. L'un se propose de m'arracher la peau du crâne, l'autre de me brûler les yeux avec des haches ardentes. Je commence ma chanson de mort. Je ne crains point les tourments. Je suis brave, ô Muscogig. Je vous défie. Je vous méprise plus que des femmes. Mon père Outalissi, fils de Miscou, a bu dans le crâne de vos plus fameux guerriers. Vous m'arracherez pas un soupir de mon cœur. Provoqué par ma chanson, un guerrier me perça le bras d'une flèche. Je dis « Frère, je te remercie !» Malgré l'activité des bourreaux, les préparatifs du supplice ne purent être achevés avant le coucher du soleil. On consulta le jongleur, qui défendit de troubler les génies des ombres, et ma mort fut encore suspendue jusqu'au lendemain. Mais dans l'impatience de jouir du spectacle et pour être plutôt prêt au lever de l'aurore, les Indiens ne quittèrent point le bois du sang. Ils allumèrent de grands feux et commencèrent des festins et des danses. Cependant, on m'avait étendu sur le dos. Des cordes partant de mon cou, de mes pieds, de mes bras, allaient s'attacher à des piquets enfoncés en terre. Des guerriers étaient couchés sur ces cordes et je ne pouvais faire un mouvement sans qu'ils en fussent avertis. La nuit s'avance, les chants et les danses cessent par degrés, les feux ne jettent plus que des lueurs rougeâtres devant lesquelles on voit encore passer les ombres de quelques sauvages. Tout s'endort. À mesure que le bruit des hommes s'affaiblit, celui du désert augmente et au tumulte des voix succèdent les plaintes du vent dans la forêt. C'était l'heure où une jeune indienne qui vient d'être mère se réveille en sursaut au milieu de la nuit, car elle a cru entendre les cris de son premier-né qui lui demande la douce nourriture. Les yeux attachés au ciel, où le croissant de la lune errait dans les nuages, je réfléchissais sur ma destinée. Atala me semblait un monstre d'ingratitude. M'abandonner au moment du supplice, moi qui m'étais dévoué aux flammes plutôt que de la quitter. Et pourtant, je sentais que je l'aimais toujours et que je mourrais avec joie pour elle. Il est dans les extrêmes plaisirs un aiguillon qui nous éveille comme pour nous avertir de profiter de ce moment rapide. Dans les grandes douleurs, au contraire, je ne sais quoi de pesant nous endort. Des yeux fatigués par les larmes cherchent naturellement à se fermer, et la bonté de la Providence se fait ainsi remarquer jusque dans nos infortunes. Je cédais, malgré moi, à ce lourd sommeil que goûtent quelquefois les misérables. Je rêvais qu'on m'ôtait mes chaînes. Je croyais sentir ce soulagement qu'on éprouve lorsqu'après avoir été fortement pressé, une main secourable relâche nos fers. Cette sensation devint si vive qu'elle me fit soulever les paupières. À la clarté de la lune, dont un rayon s'échappait entre deux nuages, j'entrevois une grande figure blanche penchée sur moi et occupée à dénouer silencieusement mes liens. J'allais pousser un cri lorsqu'une main que je reconnus à l'instant me ferma la bouche. Une seule corde restait, mais il paraissait impossible de la couper sans toucher un guerrier qui la couvrait tout entière de son corps. Atala y porte la main, le guerrier s'éveille à demi et se dresse sur son séant. Atala reste immobile et le regarde. L'Indien croit voir l'esprit des ruines. Il se recouche en fermant les yeux et en invoquant son Manitou. Le lien est brisé, je me lève, je suis ma libératrice qui me tend le bout d'un arc dont elle tient l'autre extrémité. Mais que de dangers nous environnent. Tantôt nous sommes prêts de heurter des sauvages endormis. Tantôt une garde nous interroge et Atala répond en changeant sa voix. Les enfants poussent des cris, des dogues aboient. À peine sommes-nous sortis de l'enceinte funeste que des hurlements ébranlent la forêt. Le camp se réveille et mille feux s'allument. On voit courir de tous côtés des sauvages avec des flambeaux. Nous précipitons notre course. Quand l'aurore se leva sur les Appalaches, nous étions déjà loin. Quelle fut ma félicité lorsque je me trouvai encore une fois dans la solitude avec Atala ma libératrice, avec Atala qui se donnait à moi pour toujours. Les paroles manquèrent à ma langue, je tombai à genoux et je dis à la fille de Simagan, « Les hommes sont bien peu de choses, mais quand les génies les visitent, alors ils ne sont rien du tout. » Vous êtes un génie. Vous m'avez visité, je ne puis parler devant vous. Atala me tendit la main avec un sourire. Il faut bien, dit-elle, que je vous suive, puisque vous ne voulez pas fuir sans moi. Cette nuit, j'ai séduit le jongleur par des présents, j'ai enivré vos bourreaux avec de l'essence de feu, et j'ai dû hasarder ma vie pour vous, puisque vous aviez donné la vôtre pour moi. « Oui, jeune idolâtre, ajouta-t-elle, avec un accent qui m'effraya, le sacrifice sera réciproque. » Atala me remit les armes qu'elle avait eu soin d'apporter. Ensuite, elle pansa ma blessure. En l'essuyant avec une feuille de papaye, elle la mouillait de ses larmes. « C'est un baume, lui dis-je, que tu répands sur ma plaie. » « Je crains plutôt que ce ne soit un poison, » répondit-elle. Elle déchira un des voiles de son sein, dont elle fit une première compresse, qu'elle attacha avec une boucle de ses cheveux. L'ivresse qui dure longtemps chez les sauvages et qui est pour eux une espèce de maladie, les empêcha sans doute de nous poursuivre durant les premières journées. S'ils nous cherchèrent ensuite, il est probable que ce fut du côté du couchant, persuadés que nous aurions essayé de nous rendre au message B. Mais nous avions pris notre route vers l'étoile immobile en nous dirigeant sur la mousse du tronc des arbres. Nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que nous avions peu gagné à ma délivrance. Le désert déroulait maintenant devant nous ses solitudes démesurées. Sans expérience de la vie des forêts, détournés de notre vrai chemin et marchant à l'aventure, qu'allions-nous devenir? Souvent, en regardant Atala, je me rappelais cette antique histoire d'Agar que Lopez m'avait fait lire et qui est arrivée dans le désert de Bersabé il y a bien longtemps, alors que les hommes vivaient trois âges de chêne. Atala me fit un manteau avec la seconde écorce du frêne, car j'étais presque nu. Elle me broda des mocassines de peau de rat musqué avec du poil de porc épic. Je prenais soin à mon tour de sa parure. Tantôt, je lui mettais sur la tête une couronne de ces mauves bleus que nous trouvions sur notre route dans des cimetières indiens abandonnés. Tantôt, je lui faisais des colliers avec des graines rouges d'azaléa, et puis je me prenais à sourire en contemplant sa merveilleuse beauté. Quand nous rencontrions un fleuve, nous le passions sur un radeau ou à la nage. Atala appuyait une de ses mains sur mon épaule, et comme deux cygnes voyageurs, nous traversions ces ondes solitaires. Souvent, dans les grandes chaleurs du jour, nous cherchions un abri sous les mousses des cèdres. Presque tous les arbres de la Floride, en particulier le cèdre et le chêne vert, sont couverts d'une mousse blanche qui descend de leurs rameaux jusqu'à terre. Quand la nuit, au clair de la lune, vous apercevez sur la nudité d'une savane unieuse, isolée, revêtue de cette draperie, vous croiriez voir un fantôme traînant après lui ses longs voiles. La scène n'est pas moins pittoresque au grand jour, car une foule de papillons, de mouches brillantes, de colibris, de perruches vertes, de jets d'azur vient s'accrocher à ces mousses qui produisent alors l'effet d'une tapisserie en laine blanche où l'ouvrier européen aurait brodé des insectes et des oiseaux éclatants. C'est dans ces riantes hôtelleries, préparées par le grand esprit, que nous nous reposions à l'ombre. Lorsque les vents descendaient du ciel pour balancer ce grand cèdre, que le château aérien bâti sur ses branches allait flottant avec les oiseaux et les voyageurs endormis sous ses abris, que mille soupirs sortaient des corridors et des voûtes du mobile édifice. Jamais les merveilles de l'ancien monde n'ont approché de ce monument du désert. Chaque soir, nous allumions un grand feu et nous bâtissions la hutte du voyage avec une écorce élevée sur quatre piquets. Si j'avais tué une daine sauvage, un ramier, un faisan des bois, nous le suspendions devant le chêne embrasé, au bout d'une gaule plantée en terre, et nous abandonnions au vent le soin de tourner la proie du chasseur. Nous mangions des mousses appelées tripes de roche, des écorces sucrées de bouleau, et des pommes de mai qui ont le goût de la pêche et de la framboise. Le noyer noir, l'érable, le sumac fournissaient le vin à notre table. Quelquefois j'allais chercher, parmi les roseaux, une plante dont la fleur allongée en cornet contenait un verre de la plus pure rosée. Nous bénissions la Providence qui, sur la faible tige d'une fleur, avait placé cette source limpide au milieu des marais corrompus, comme elle a mis l'espérance au fond des cœurs ulcérés par le chagrin, comme elle a fait jaillir la vertu du sein des misères de la vie. Hélas, je découvris bientôt que je m'étais trompé sur le calme apparent d'Atala. À mesure que nous avancions, elle devenait triste. Souvent, elle tressaillait sans cause et tournait précipitamment la tête. Je Cela surprenait, attachant sur moi un regard passionné qu'elle reportait vers le ciel avec une profonde mélancolie. Ce qui m'effrayait surtout était un secret, une pensée cachée au fond de son âme que j'entrevoyais dans ses yeux. Toujours m'attirant et me repoussant, ranimant et détruisant mes espérances, quand je croyais avoir fait un peu de chemin dans son cœur, je me retrouvais au même point. Que de fois elle m'a dit « Oh mon jeune amant, je t'aime comme l'ombre des bois au milieu du jour. Tu es beau comme le désert avec toutes ses fleurs et toutes ses brises. Si je me penche sur toi, je frémis. Si ma main tombe sur la tienne, il me semble que je vais mourir. » L'autre jour, le vent jeta les cheveux sur mon visage, tandis que tu te délassais sur mon sein. Je crus sentir le léger toucher des esprits invisibles. Oui, j'ai vu les chevrettes de la montagne d'Ocon. J'ai entendu les propos des hommes rassasiés de jour. Mais la douceur des chevreaux et la sagesse des vieillards sont moins plaisantes et moins fortes que tes paroles. Eh bien, pauvre Chactas, je ne serai jamais ton épouse. Les perpétuelles contradictions de l'amour et de la religion d'Atala, l'abandon de sa tendresse et la chasteté de ses mœurs, la fierté de son caractère et sa profonde sensibilité, l'élévation de son âme dans les grandes choses, sa susceptibilité dans les petites, tout en faisait pour moi un être incompréhensible. Atala ne pouvait pas prendre sur un homme un faible empire. Pleine de passion, elle était pleine de puissance. Il fallait ou l'adorer ou la haïr. Après 15 nuits d'une marche précipitée, nous entrâmes dans la chaîne des monts Allegheny et nous atteignîmes une des branches du Tennis, fleuve qui se jette dans l'Ohio. Aidé des conseils d'Atala, je bâtis un canot que j'enduisis de gomme de prunier après en avoir recousu les écorces avec des racines de sapin. Ensuite, je m'embarquai avec Atala et nous nous abandonnâmes au cours du fleuve. Le village indien de Stikoé, avec ses tombes pyramidales et ses huttes en ruine, se montrait à notre gauche, au détour d'un promontoire. Nous laissions à droite la vallée de Kiouf, terminée par la perspective des cabanes de Johor, suspendues au front de la montagne du même nom. Le fleuve qui nous entraînait coulait entre de hautes falaises, au bout desquelles on apercevait le soleil couchant. Ces profondes solitudes n'étaient point troublées par la présence de l'homme. Nous ne vîmes qu'un chasseur indien qui, appuyé sur son arc et immobile sur la pointe d'un rocher, ressemblait à une statue élevée dans la montagne au génie de ces déserts. Atala et moi joignions notre silence au silence de cette scène. Tout à coup, la fille de l'exil fit éclater dans les airs une voix pleine d'émotion et de mélancolie. Elle chantait la patrie absente. Heureux ceux qui n'ont point vu la fumée des fêtes de l'étranger et qui ne se sont assis qu'au festin de leur père. Si le jet bleu du Méchacébé disait à l'anon pareil des Florides, pourquoi vous plaignez-vous si tristement? N'avez-vous pas ici de belles eaux et de beaux ombrages et toutes sortes de pâtures, comme dans vos forêts ? Oui, répondrait la non-pareille fugitive, mais mon nid est dans le jasmin, qui me l'apportera ? Et le soleil de ma savane, l'avez-vous ? Heureux ceux qui n'ont point vu la fumée des fêtes de l'étranger et qui ne se sont assis qu'au festin de leur père. Après les heures d'une marche pénible, le voyageur s'assied tristement. Il contemple autour de lui les toits des hommes. Le voyageur n'a pas un lieu où reposer sa tête. Le voyageur frappe à la cabane, il met son arc derrière la porte, il demande l'hospitalité. Le maître fait un geste de la main, le voyageur reprend son arc et retourne au désert. Heureux ceux qui n'ont point vu la fumée des fêtes de l'étranger et qui ne se sont assis qu'au festin de leur père. Merveilleuse histoire racontée autour du foyer, tendres épanchements du cœur, longues habitudes d'aimer si nécessaires à la vie, vous avez rempli les journées de ceux qui n'ont point quitté leur pays natal. Leurs tombeaux sont dans leur patrie, avec le soleil couchant, les pleurs de leurs amis et les charmes de la religion. Heureux ceux qui n'ont point vu la fumée des fêtes de l'étranger et qui ne se sont assis qu'au festin de leur père. Ainsi chantait Atala. Rien n'interrompait ses plaintes, hors le bruit insensible de notre canot sur les ondes. En deux ou trois endroits seulement, elle fut recueillie par un faible écho qui le redit à un second plus faible, et celui-ci un troisième plus faible encore. On eût cru que les âmes de deux amants, jadis infortunés comme nous, attirés par cette mélodie touchante, se plaisaient à en soupirer les derniers sons dans la montagne. Cependant, la solitude, la présence continuelle de l'objet aimé, nos malheurs mêmes redoublaient à chaque instant notre amour. Les forces d'Atala commençaient à l'abandonner, et les passions, en abattant son corps, allaient triompher de sa vertu. Elle priait continuellement sa mère, dont elle avait l'air de vouloir apaiser l'ombre irritée. Quelquefois, elle me demandait si je n'entendais pas une voix plaintive, si je ne voyais pas des flammes sortir de la terre. Pour moi, épuisé de fatigue, mais toujours brûlant de désir, songeant que j'étais peut-être perdu sans retour au milieu de ces forêts, 100 fois je fus prêt à saisir mon épouse dans mes bras, 100 fois je lui proposais de bâtir une hutte sur ses rivages et de nous y ensevelir ensemble. Mais elle me résista toujours. « Songe, me disait-elle, mon jeune ami, qu'un guerrier se doit à sa patrie. Qu'est-ce qu'une femme auprès des devoirs que tu as à remplir? Prends courage, fils d'Outalissi, ne murmure point contre ta destinée. Le cœur de l'homme est comme l'éponge du fleuve, qui tantôt boit une onde pure dans les temps de sérénité, tantôt s'enfle d'une eau bourbeuse, quand le ciel a troublé les eaux. L'éponge a-t-elle le droit de dire « Je croyais qu'il n'y aurait jamais d'orage, que le ciel ne serait jamais brûlant. » Oh, René, si tu crains les troubles du cœur, défie-toi de la solitude. Les grandes passions sont solitaires, et les transporter au désert, c'est leur rendre leur empire. Accablé de soucis et de craintes, exposé à tomber entre les mains des Indiens ennemis, à être englouti dans les eaux, piqué des serpents, dévoré des bêtes, trouvant difficilement une chétive nourriture et ne sachant plus de quel côté tourner nos pas, nos maux semblaient ne pouvoir plus s'accroître lorsqu'un accident y vint mettre le comble. C'était le 27e soleil depuis notre départ des cabanes. La lune de feu avait commencé son cours et tout annonçait un orage. Vers l'heure où les matrones indiennes suspendent la crosse du labour aux branches du savinier et où les perruches se retirent dans le creux des cyprès, le ciel commença à se couvrir. Les voix de la solitude s'éteignirent, le désert fit silence et les forêts demeurèrent dans un calme universel. Bientôt, les roulements d'un tonnerre lointain, se prolongeant dans ces bois aussi vieux que le monde, en firent sortir des bruits sublimes. Craignant d'être submergés, nous nous hâtâmes de gagner le bord du fleuve et de nous retirer dans une forêt. Ce lieu était un terrain marécageux. Nous avancions avec peine sous une voûte de smilax, parmi des ceps de vigne, des indigos, des phaséoles, des lianes rampantes qui entravaient nos pieds comme des filets. Le sol spongieux tremblait autour de nous et à chaque instant nous étions prêts d'être engloutis dans des fondrières. Des insectes sans nombre, d'énormes chauves-souris nous aveuglaient. Les serpents à sonnette bruissaient de toutes parts, et les loups, les ours, les carcajous, les petits tigres qui venaient se cacher dans ces retraites les remplissaient de leurs rugissements. Cependant l'obscurité redouble. Des nuages abaissés entrent sous l'ombrage des bois. La nuit se déchire et l'éclair trace un rapide losange de feu. Un vent impétueux sorti du couchant roule les nuages sur les nuages. Les forêts plient, le ciel s'ouvre coup sur coup, et à travers ces crevasses, on aperçoit de nouveaux cieux et des campagnes ardentes. Quel affreux, mais quel magnifique spectacle! La foudre met le feu dans les bois, l'incendie s'étend comme une chevelure de flammes, des colonnes d'étincelles et de fumée assiègent les nues qui vomissent leur foudre dans le vaste embrasement. Alors le grand esprit couvre les montagnes d'épaisses ténèbres. Du milieu de ce vaste chaos s'élève un mugissement confus, formé par le fracas des vents, le gémissement des arbres, le hurlement des bêtes féroces, le bourdonnement de l'incendie et la chute répétée du tonnerre qui siffle en s'éteignant dans les eaux. Le grand esprit le sait. Dans ce moment, je ne vis qu'Atala, je ne pensais qu'à elle. Sous le tronc penché d'un bouleau, je parvins à la garantir des torrents de la pluie. Assis moi-même sous l'arbre, tenant ma bien-aimée sur mes genoux et réchauffant ses pieds nus entre mes mains, j'étais plus heureux que la nouvelle épouse qui sent pour la première fois son fruit tressaillir dans son sein. Nous prêtions l'oreille au bruit de la tempête. Tout à coup, je sentis une larme d'Atala tomber sur mon sein. « Orage du cœur, m'écriai-je, c'est une goutte de votre pluie. » Puis, embrassant étroitement celle que j'aimais, « Atala, lui dis-je, vous me cachez quelque chose. Ouvre-moi ton cœur, ô ma beauté. Cela fait tant de bien quand un ami regarde dans notre âme. Raconte-moi. » Cet autre secret de la douleur que tu t'obstines à taire. Ah, je le vois, tu pleures ta patrie. » Elle repartit aussitôt. Enfant des hommes, comment pleurerais-je ma patrie, puisque mon père n'était pas du pays des palmiers? Quoi, répliquai-je avec un profond étonnement, votre père n'était point du pays des palmiers? Quel est donc celui qui vous a mis sur cette terre? Répondez. Atala dit ces paroles. Avant que ma mère eût apporté en mariage au guerrier Sibagan 30 cavales, 20 buffles, 100 mesures d'huile de gland, 50 pots de castor et beaucoup d'autres richesses, elle avait connu un homme de la chair blanche. Or, la mère de ma mère lui jeta de l'eau au visage et la contraignit d'épouser le magnanime Simagan, tout semblable à un roi et honorait les peuples comme un génie. Mais ma mère dit à son nouvel époux, « Mon ventre a conçu, tu es moi. » Simagan lui répondit, « Le grand esprit me garde d'une si mauvaise action. Je ne vous mutilerai point, je ne vous couperai point le nez ni les oreilles, parce que vous avez été sincère et que vous n'avez point trompé ma couche. Le fruit de vos entrailles sera mon fruit, et je ne vous visiterai qu'après le départ de l'oiseau de rizière, lorsque la 13e lune aura brillé. » En ce temps-là, je brisais le sein de ma mère et je commençais à croître, fier comme une espagnole et comme une sauvage. Ma mère me fit chrétienne, afin que son Dieu et le Dieu de mon père fût aussi mon Dieu. Ensuite, le chagrin d'amour vint la chercher, et elle descendit dans la petite cave garnie de pots d'où l'on ne sort jamais. Telle fut l'histoire d'Atala. « Et quel était donc ton père, pauvre orpheline ?» lui dis-je. Comment les hommes l'appelaient-ils sur la terre? Et quel nom portait-il parmi les génies? Je n'ai jamais lavé les pieds de mon père, dit Atala. Je sais seulement qu'il vivait avec sa sœur à Saint-Augustin et qu'il a toujours été fidèle à ma mère. Philippe était son nom parmi les anges et les hommes le nommaient Lopez. À ces mots, je poussai un cri qui retentit dans toute la solitude. Le bruit de mes transports se mêla au bruit de l'orage. Serrant Atala sur mon cœur, je m'écriai avec des sanglots. « Oh, ma sœur, oh, fille de Lopez, fille de mon bienfaiteur !» Atala, effrayé, me demanda d'où venait mon trouble. Mais quand elle sut que Lopez était cet hôte généreux qui m'avait adopté à Saint-Augustin et que j'avais quitté pour être libre, elle fut saisie elle-même de confusion et de joie. C'en était trop pour nos cœurs que cette amitié fraternelle qui venait nous visiter et joindre son amour à notre amour. Désormais, les combats d'Atala allaient devenir inutiles. En vain, je la sentis porter une main à son sein et faire un mouvement extraordinaire. Déjà, je l'avais saisie. Déjà, je m'étais enivré de son souffle. Déjà, j'avais bu toute la magie de l'amour sur ses lèvres. Les yeux levés vers le ciel, à la lueur des éclairs, je tenais mon épouse entre mes bras en présence de l'Éternel. Pompe nuptiale, digne de nos malheurs et de la grandeur de nos amours. Superbe forêt, qui agitiez vos lianes et vos dômes comme les rideaux et le ciel de notre couche, pins embrasés qui formiez les flambeaux de notre hymen, fleuves débordés, montagnes mugissantes, affreuse et sublime nature, n'étiez-vous donc qu'un appareil préparé pour nous tromper, et ne pûtes-vous cacher un moment dans vos mystérieuses horreurs la félicité d'un homme? Atala n'offrait plus qu'une faible résistance. Je touchais au moment du bonheur, quand tout à coup un impétueux éclair, suivi d'un éclat de la foudre, sillonne l'épaisseur des ombres, remplit la forêt de soufre et de lumière, et brise un arbre à nos pieds. Nous fuyons. Oh, surprise! Dans le silence qui succède, nous entendons le son d'une cloche. Tous deux interdits, nous prêtons l'oreille à ce bruit si étrange dans un désert. À l'instant, un chien aboie dans le lointain. Il approche, il redouble ses cris, il arrive, il hurle de joie à nos pieds. Un vieux solitaire, portant une petite lanterne, le suit à travers les ténèbres de la forêt. La Providence soit bénie! S'écria-t-il aussitôt qu'il nous aperçut. Eh, « Il y a bien longtemps que je vous cherche. Notre chien vous a senti dès le commencement de l'orage et il m'a conduit ici. Bon Dieu, mais comme ils sont jeunes, pauvres enfants, comme ils ont dû souffrir. Allons, j'ai apporté une peau d'ours, ce sera pour cette jeune femme. » Voici un peu de vin dans notre calebasse. Que Dieu soit loué dans toutes ses œuvres. Sa miséricorde est bien grande et sa bonté est infinie. Atala était au pied du religieux. Chef de la prière, lui disait-elle, je suis chrétienne. C'est le ciel qui t'envoie pour me sauver. Ma fille, dit l'ermite en la relevant, nous sonnons ordinairement la cloche de la mission pendant la nuit et pendant les tempêtes pour appeler les étrangers. Et à l'exemple de nos frères des Alpes et du Liban, nous avons appris à notre chien à découvrir les voyageurs égarés. Pour moi, je comprenais à peine l'ermite. Cette charité me semblait si fort au-dessus de l'homme que je croyais faire un songe. À la lueur de la petite lanterne que tenait le religieux, j'entrevoyais sa barbe et ses cheveux tout trempés d'eau. Ses pieds, ses mains et son visage étaient ensanglantés par les ronces. « Vieillard, m'écriai-je enfin, quel cœur as-tu donc, toi qui n'as pas craint d'être frappé de la foudre ?»« Craindre, repartit le père avec une sorte de chaleur, craindre lorsqu'il y a des hommes en peine et que je puis leur être utile. Je serai donc un bien indigne serviteur de Jésus-Christ. » « Mais sais-tu, lui dis-je, que je ne suis pas chrétien ?»« Jeune homme, répondit l'ermite, vous ai-je demandé votre religion ?» Jésus-Christ n'a pas dit « Mon sang lavera celui-ci et non celui-là. » Il est mort pour le juif et le gentil, et il n'a vu dans tous ces hommes que des frères et des infortunés. Ce que je fais ici pour vous est fort peu de choses, et vous trouveriez ailleurs bien d'autres secours, mais la gloire m'en pourrait retomber sur les prêtres. Que sommes-nous, faibles solitaires, sinon de grossiers instruments d'une œuvre céleste? Et quel serait le soldat assez lâche pour reculer lorsque son chef, la croix à la main et le front couronné d'épines, marche devant lui au secours des hommes? Ces paroles saisirent mon cœur. Des larmes d'admiration et de tendresse tombèrent de mes yeux. « Chers enfants, dit le missionnaire, je gouverne dans ces forêts un petit troupeau de vos frères sauvages. Ma grotte est assez près d'ici, dans la montagne. Venez vous réchauffer chez moi. Vous n'y trouverez pas les commodités de la vie, mais vous y aurez un abri. Et il faut encore en remercier la bonté divine, car il y a bien des hommes qui en manquent. »